Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Dume, créatrice de la marque de chaussures 1000 et 1000. C'est le premier épisode hors série du podcast Prolongation, où je mettrai en avant des initiatives, des associations, des personnes ou des entreprises ayant un impact positif sur le monde du football. Avec elle, nous avons abordé la fabrication de ces chaussures de football made in France, de la réflexion autour de la création de la marque, à sa conception et à sa réalisation. Nous avons également évoqué son regard sur le marché de la chaussure de foot, son approche auprès des joueurs et toutes les questions techniques autour des chaussures 1000 et 1000. Et vous le verrez, c'est la première fois qu'un épisode de Prolongation commence par une phrase « Au début, je n'aimais pas le football ». Prometteur, n'est-ce pas ? Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Isabelle Dume. Bonjour Isabelle Dume et bienvenue dans cet épisode hors série du podcast Prolongation.
Bonjour, merci.
Alors dans les épisodes classiques du podcast Prolongation, on commence toujours par la même question, mais j'ai décidé de changer pour ces hors série. Avant de détailler ce que vous faites avec 1000 et 1000, j'aimerais qu'on débute par votre rapport au football. Parce que finalement, être de Romans-sur-Isère et travailler dans l'industrie de la chaussure, c'est presque normal, j'ai envie de dire, puisque cette ville est, alors je ne sais pas si on doit dire la capitale de la chaussure, la cité de la chaussure, mais c'est vrai qu'elle est connue pour cette industrie-là. Mais lancer une production de chaussures de foot 100% made in France, c'est une décision que j'ai trouvée intéressante, qui peut être courageuse aussi parce qu'on va le voir, cette industrie-là a un très fort monopole de quelques marques très puissantes. Par conséquent, Isabelle, la première question, elle est très simple. Pourquoi le football et pourquoi la production de chaussures de foot ?
Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, en fait, j'aimais pas le foot, en fait.
D'accord. Vous avez tout à fait le droit.
Voilà. Alors, pourquoi le foot ? Alors, donc, au départ, je suis passionnée par la chaussure. Et j'ai travaillé dans la chaussure depuis 25 ans et j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai eu envie d'entreprendre et en fait, ça a commencé. En effet, à un moment, j'avais acheté une machine à coudre industrielle que j'avais dans mon garage. Et puis, j'ai commencé à vouloir faire des chaussures sans avoir même l'idée d'entreprendre au départ. Et mon mari m'avait dit, bah tiens, t'as quand même faire des chaussures de foot. J'avais dit, mais non, mais t'es pas dingue. Je vais pas te faire des chaussures de foot dans mon garage comme ça. Et voilà. En parallèle, voilà, j'avais cette idée, cette envie d'entreprendre. Et moi, je voulais faire de la chaussure de sport. sport, parce que je trouve que la chaussure de sport, elle répond à un besoin. Et voilà, je ne savais pas trop. À un moment, j'ai pensé à un peu la chaussure de vélo, vélo urbain, voilà. Et puis, j'ai rencontré un footballeur. Donc, j'avais déjà, je partageais ma vie avec un footballeur un dimanche.
D'accord.
J'ai rencontré un autre footballeur. Donc, en fait, j'explorais. Hein, un jour, je suis allée sur les petites annonces du site internet du centre technique du cuir et de la chaussure. Et j'ai trouvé un footeux qui marquait « C'est pas normal que ça fait 30 ans qu'il n'y ait plus de fabricants français de chaussures de foot. » Et du coup, moi, j'aimerais produire des chaussures de foot en France. Donc, en fait, il avait l'idée. Moi, j'aimerais faire des chaussures de foot en France. Et moi, donc, j'étais basée à Romans-sur-Isère, dans cette ville qui renaissait un peu de ses cendres, hein, parce qu'il n'y avait presque plus rien. Et je voyais un peu la chaussure qui reprenait. Et j'ai dit, ben, bingo, quelle bonne idée. Allons-y, même pas peur. Donc, voilà. Donc, au départ, le projet, il est venu de cette rencontre avec Christophe. On ne se connaissait pas en plus, hein. Je ne connaissais pas le foot et je ne connaissais pas Christophe. Moi, j'ai peur de rien, petit côté audace. Et du coup, on a commencé à se dire, ben voilà, ok, l'idée de refaire de la chaussure en France nous plaisait, elle faisait sens. Moi, il se trouve que dans mon parcours, ça faisait 20 ans que je faisais de la chaussure de sport. Et puis, j'avais été pas mal en Asie, partout, et j'avais envie de sens, de revenir... en local et de porter des valeurs vraies, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Mais une fois qu'on a dit « Ok, on va faire de la chaussure », qu'est-ce qu'on veut faire, en fait ? Qu'est-ce qu'on veut raconter ? Comment on veut que la chaussure elle soit faite ? Et qui c'est qu'il y a autour de nous ? Donc, autour de moi, on me disait « Mais t'as vu qui c'est qu'il y a ? Il y en a Nike Adidas ou voilà, t'as des gros des... ?» En fait, c'est vrai que ce qui est très spécifique au monde du foot, c'est qu'il y a très peu d'artisans, en fait, ou de petites marques. Dans tous les milieux, moi, j'étais beaucoup dans l'outdoor où il y avait des grandes marques, des petites marques, des milieux, voilà, dans le foot, il y a des gros et puis c'est tout, quoi. Et du coup, moi, je me disais, mais justement, je pense qu'il y a un créneau. Je pense qu'il y a un créneau pour les gens qui ont envie de faire autre chose que d'acheter à des multinationales, en fait. Et puis, il y a un créneau aussi pour la chaussure artisanale. Artisanale dans le sens beau du terme, hein, pas bricolage. Hein. Et voilà, et donc, du coup, quand on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on veut faire, voilà, autour de nous, il y avait la course aux nouvelles technologies, à l'électronique, à la mesure, à la performance. Et voilà, il y avait tout ce sport business là. Et nous, moi, ce que j'ai voulu qu'on raconte, en discutant beaucoup avec Christophe et avec des footballeurs, moi, j'ai beaucoup observé. Et en fait, moi, je suis une passionnée. Et j'adore les gens qui ont des passions. Et pour moi, le football, je l'ai vu... pas avec un œil d'anthropologue, mais presque. J'adore voir des footballeurs qui parlent entre eux, qui se chambrent, qui... Voilà, de ce côté, ça déchaîne les fous, c'est passionnant. Et donc, moi, je me suis dit, mais OK, il y a le sport business, il y a le foot business, mais le foot, ça reste un jeu d'enfant, un jeu de passionné. Et je trouvais aussi qu'il y avait toute une culture d'extérieur. Je voyais ça et je voyais des gens qui ne se connaissaient pas. Et quand ils se connaissaient, ben, quand ils parlaient, ah, t'es footeux, moi aussi. Bah, ça y est, ils avaient le même vocabulaire, le même. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui m'a plu dans le foot, c'est ça, c'est de me dire, mais il y a une culture, il y a des mythes, il y a des icônes, il y a tout. Donc, j'ai aimé l'univers, en fait, parce que d'autant plus que je ne le connaissais pas, en fait, je le connaissais comme une toute fille. Voilà, mais du coup, quand j'ai commencé à regarder, voilà. Et puis, j'ai vu aussi un peu tout ce qui était le foot amateur, tous les gens qui font vivre leur club, qui. Des merguez parties pour financer le club, enfin tout ça. Du coup, ça m'a plu. Et moi, je me suis dit, ben voilà, je veux à la fois évoquer le foot vrai, tout ce que moi, j'en ai perçu. Après, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, mais en tout cas, moi, j'avais envie d'évoquer dans mon produit le vrai, le solide. J'avais envie d'en provoquer en même temps... un peu la joie et un peu aussi l'audace, en fait. Il y avait tout un mélange de choses. Et puis un peu aussi, quelque part, le « c'était mieux avant », un peu, même si, par exemple, en découvrant le foot, j'ai découvert le film « Coup de tête ». Je pense que vous voyez.
Bien sûr.
Ça a été mon iconographie, donc, mon inspiration, voilà. Et j'aimais beaucoup dans le coup de tête l'impertinence, un peu l'audace. Et moi, pour se lancer dans le foot, il fallait avoir un peu de l'audace, en fait. Un petit peu le... Ouais, on tire la langue un peu, un peu l'impertinence. Donc ça, moi, l'audace, je l'ai mise dans mes semelles orange. En fait, voilà. Donc, l'audace, c'est le petit clin d'œil, le petit truc qui fait que ça se voit un petit peu, c'était la semelle orange. Le côté, c'était mieux avant. On a dessiné des produits un peu vintage, avec un look un peu rétro.
Bah, d'autant que le passionné de football est un nostalgique, est un romantique, est un...
C'est ça.
Parce que le football, c'est l'enfance et que ça nous ramène tous, quelque part, à ce qu'on a connu quand on était enfant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de nostalgie et autant d'intérêt pour le vintage, que ce soit des chaussures, que ce soit des maillots, que ce soit des... même revoir des anciens matchs, etc. Il y a une approche au vintage dans le foot.
Je disais, moi, je vais être la Sophie la girafe du footballeur.
D'accord.
Et c'est exactement ce qui se passe. Enfin, ce que j'espère avoir réussi à faire, c'est que souvent, déjà, les gens, quand ils prennent mes chaussures, ils les sentent déjà. Ah, ça sent le cuir. Plus l'habitude, on sent le cuir. Ah ben, quand j'étais petit, moi, je cirais mes chaussures. Donc, tout le monde me raconte ces heures de gloire perdue où moi, je rêvais que j'allais jouer, gagner la Coupe du Monde. Voilà. Et c'est ça qu'en fait, qu'on a essayé d'évoquer dans le produit, c'est tout ça. Toute cette histoire que moi, j'ai eu envie de raconter. Donc voilà, je vous ai dit, à la fois un design rétro, pour un peu le côté c'était mieux avant, des versions avec des couleurs, des semelles orange. Alors, l'histoire du orange chez Mille et Mille, c'est venu aussi de bouquins des années 70, là, que j'ai trouvé, où il y avait du orange. Parce que, comme je vous dis, comme j'étais pas dans le monde du foot, j'ai passé des heures à lire des bouquins. Là, j'en ai un, là, d'ailleurs, c'est « Joie du football », où j'ai le mondial 86 de Hidalgo, j'ai « Football », enfin, j'en ai plein. Le « Orange 2000 », « Argentine 78 », voilà. Donc, j'ai lu des livres, hein. J'ai découvert le football en lisant des livres, moi.
On parlait du côté au tout début, quand vous aviez rencontré Christophe, qui vous avait dit « c'est pas normal que depuis 30 ans, il n'y ait plus d'industrie de la chaussure de foot en France ». Ça fait partie aussi, ça, du diagnostic quand vous avez voulu créer cette production de chaussures. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, la quasi-totalité des produits, c'est justement produit à l'autre bout du monde, dans des conditions parfois extrêmement difficiles pour ceux qui les produisent.
Ouais, ça a été le déclencheur, en fait. Là, c'est vrai que je suis partie en vous expliquant le modèle, mais avant, bien sûr, avant tout, il y a eu deux choses. Il y a eu que vraiment, on avait envie de faire du produit dans des bonnes conditions. Déjà, du produit résistant et solide, qui dure dans le temps. Et puis, on ne voulait pas avoir à traverser la planète pour sourcer nos produits. Et également, alors ça, c'est beaucoup plus personnel. Moi, je suis créatrice, en fait. Je ne suis pas destructrice. Et moi, j'ai besoin de créer. Et en fait, dans ma ville, à Romans-sur-Isère, enfin, j'ai fait ma formation. Je suis venue à Romans pour faire un BTS chaussures. Une formation, je n'étais pas de Romans au départ. Et déjà, en 20 ans, j'ai vu des choses qui ont changé énormément. Et puis, j'ai eu la sensation qu'à Romans, il y avait... Alors, je vais pas dire des cendres, je vais dire des braises pour rester positive. Il y avait encore un petit feu qui était tout petit, mais qui était toujours là, qui restait de la chaussure. Parce que maintenant, ça reparaît évident, parce que depuis une dizaine d'années, du coup, enfin, moi, ça fait 8 ans, puis il y a mes collègues, on va dire 10, 12 ans, qu'on est reparti. Donc maintenant, on redit, oui, Roman, mais bien sûr, mais oui, c'est la capitale de la chaussure, mais non, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, enfin, il y avait des cendres ou des braises. Et donc, il a fallu ressouffler doucement dessus pour que ça reparte. Donc, pourquoi fabriquer en France ? Ben voilà, par solidité, par envie de sens et de local. Et puis, pour refaire vivre des choses dans notre ville, quoi.
Mais justement, je pense que la tendance aujourd'hui du Made in France, qui depuis vraiment, allez, on va dire 4-5 ans, reprend... beaucoup de vigueur, vous a aussi, j'imagine, conforté dans votre choix de refaire de la production 100% locale, 100% française, parce que ce qui est à la mode aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, ne l'était finalement plus du tout il y a 10 ans.
Ouais, en fait, c'est ça. Nous, en fait, on parlait même pas, il y avait même pas de vague, en fait. On était des Astérix ou des, je sais pas ce qu'on était, mais on était des hurluberlus, quoi. Enfin, en fait, moi, j'ai démarré le projet. J'ai rencontré Christophe en janvier 2013. Il y avait eu le slip français peut-être un an et demi avant. Il y avait eu 1083, les jeans. C'est d'ailleurs un très grand ami à moi. J'étais même mannequin fesse des premiers jeans 1083. J'ai fait la démo, voilà. Donc, ça, 1083, c'était quand moi j'ai lancé Millemille. Enfin, non, quand j'ai commencé à travailler sur Millemille, on va dire. Donc, moi, mes grands frères, on va dire, ça serait Guillaume Gibaud du slip français et Thomas Uriès de 2083. Mais on était, je sais pas ce qu'on était, mais on n'avait pas de tendance du Made in France. C'était, on était dingue. Maintenant, ça nous a confortés.
Voilà, c'est ça. Et quand on dit 100% Made in France, qu'est-ce que ça veut dire pour Mille et Mille? C'est-à-dire que les matières premières sont produites en France, que le travail de confection, il est à Romans-sur-Isère. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les chaussures sont Made in France?
En général, dans la chaussure, on peut dire que c'est Made in France à partir du moment où la chaussure, elle est montée en France. C'est-à-dire qu'on peut acheter les matières à l'étranger, piquer le dessus à l'étranger et finir le montage en France et appeler une chaussure Made in France. C'est bien sûr ce que je n'ai pas fait. Moi, ce n'est pas ça, ma conviction personnelle. Après, moi, je suis un peu, comme je vous ai dit, je suis une irréductible. Hein. Donc, moi, je fais tout pour être le plus Made in France. Donc, tout ce qui est fabrication, moi, c'est 100% fabriqué en France. C'est-à-dire que c'est coupé, piqué, monté, fini à Romans. La totalité. Pas juste un bout, quoi. Voilà. Donc ça, déjà, la totalité de la fabrication, elle est française. Après, quand je peux, les semelles, par exemple, moi, les semelles de mes chaussures de foot, elles sont faites à la Saône, en Isère, elles sont pas loin, là. Donc quand on peut, quand on a le fabricant, on fait tout pour trouver en local. Donc les lacets, c'est à Cholet, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes cotons de mes doublures, ils sont à... En Normandie, enfin voilà, on essaye de faire le maximum. Après, pour pas vous cacher, on trouve pas tout le temps. Donc, et puis surtout, comme on est quand même, enfin moi je suis une société pas énorme, il y a des fois, par exemple, moi j'ai une tannerie dans ma ville, mais ils ont des gros minimums de commandes. Donc sur les certaines couleurs, moi je peux pas les avoir, j'ai trop de petites séries. Par contre, j'arrive à leur acheter le noir, le blanc, voilà. Donc 100% de la fabrication est fabriquée en France, au Mille et Mille. Et les composants, tout ce qu'on peut. Voilà. Donc, selon et au plus loin, c'est le Portugal ou l'Italie.
D'accord, oui. Donc, ce n'est pas non plus à l'autre bout du monde.
Ça reste.
Voilà. Et justement, d'ailleurs, vous avez sur vos modèles, il y a deux types de chaussures. C'est soit les crampons moulés, donc intégrés directement à la semelle, soit vous avez aussi passé, alors je ne sais pas s'il y a un partenariat, une collaboration, peu importe le terme finalement, avec Smart Power, qui est une marque française qui a développé des crampons pour le football et pour le rugby, avec le côté aussi technologie plutôt innovante. Donc là aussi, c'est-à-dire que même quand vous cherchez à proposer un autre type de crampons, vous êtes aussi sur une entreprise française.
Alors, ce n'est pas une entreprise française, c'est une entreprise dromoise.
D'accord.
C'est mon voisin, on est à 20 km en plus. Donc, avec Stéphane, en plus, on a une amitié, enfin voilà. Donc
ça prouve bien que c'est au-delà même de l'entreprise et entre guillemets du business, ça montre bien aussi que ça part d'un esprit, d'un état d'esprit,
ouais,
de vouloir faire français, en fait.
Bah, c'est ça. Et puis, en fait, on fait du business, du bon sens. En fait, je sais pas. Moi, j'essaye de faire des trucs à côté de chez moi, avec des gens avec qui j'ai envie de travailler et que j'aime. C'est tout. C'est pas compliqué.
Non, mais c'est vrai que le bon sens est souvent porteur de bonnes choses, en fait. Et parfois, on l'oublie, ce bon sens. Mais finalement, ça conduit à plein de choses évidentes.
C'est ça. En fait, on a des chaussures. Donc, en effet, on a plusieurs versions. Hein. Enfin, donc, on a un modèle qu'on décline sur différentes semelles. On décline même en chaussures de ville. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ne sont plus des footballeurs, hein, qui me disent « Oh là là, j'aime trop tes chaussures, mais moi, je ne joue plus au foot. » On dit donc « Pas de souci, on a la version basket, tout va bien. » Donc voilà, on a la version basket. Après, on a les crampons moulés. Et après, en effet, on a les crampons vissés. Et donc, les crampons vissés, on les prend chez mon collègue Smart Power parce que déjà, voilà, c'est simple. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est à côté, et c'est pas compliqué. Quoi.
Alors, les chaussures de foot sont l'outil de travail numéro un des joueurs, des footballeurs, des footballeuses. L'industrie a beaucoup évolué. On a commencé à en parler tout à l'heure. C'est qu'il y a une technologie qui est de plus en plus présente. Là, je parle des mastodontes, hein, du secteur. Nike, Adidas, Puma, pour en citer trois. Il y a de très nombreuses innovations. Il y a des budgets R&D de plusieurs milliards. Il y a des contrats de sponsoring de centaines de millions d'euros. Vous, votre phase de travail, avant même de passer à la production, il a fallu passer par une phase de réflexion où vous vous êtes posé, où vous avez réfléchi à comment vous alliez faire cette chaussure, avec quel type de matériaux, faire des... Alors, j'ai plus le terme, c'est pas un gabarit, mais faire un...
Une forme.
Voilà, une forme, exactement. Quels étaient du coup les points essentiels de cette phase de réflexion Et sur quel point vous vouliez insister? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les joueurs nous disent « Ah, moi, j'aime bien que la chaussure, elle soit légère. J'aime bien qu'elle soit confortable. » Bon, la résistance, honnêtement, c'est de moins en moins vrai parce que c'est plus du cuir, c'est du synthétique et c'est toujours un petit peu compliqué.
Après, dans la vie, moi, je considère que je fais mon chemin. Donc, il y a eu le chemin pour créer ces produits. Puis après, il y a eu mon chemin personnel d'entrepreneur. Quand je dis j'ai lancé ces produits, j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion, tout mon argent, toute ma vie. Pour répondre à votre question sur comment on a choisi de faire les produits, tout à l'heure, j'ai fait la maline en disant même pas peur. J'avais très, très peur. J'avais très, très peur du monde du foot. En plus, c'était pas mon milieu. Donc, j'avais Christophe, mais Christophe, il a quitté la société au bout d'un an et demi parce qu'il avait d'autres projets. Voilà. Donc, je me suis très vite, en plus, trouvée seule à gérer cette société n'étant pas du domaine de foot. Donc oui, c'est sûr que, voilà, au début, j'ai eu quand même des doutes et voilà. Donc, pourquoi, pour répondre à votre question sur ma relation avec les footballeurs et avec le produit, avec la performance, en fait, clairement, au départ, j'ai ciblé le monde amateur en me disant je ne vais pas aller à la course à la légèreté parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Puis parce qu'en plus, il y avait un mélange, il y avait en effet une peur. Et puis aussi, je ne voulais pas aller direct dans cette cour-là parce que justement, je pense que j'avais eu des a priori. C'est, je m'étais dit, de toute façon, les pros sont tous pourris, c'est tout pourri et c'est trop nul et donc je ne vais pas aller les voir. Donc c'était un peu. Enfin voilà. Maintenant,
c'est différent.
Maintenant, c'est différent. Parce que maintenant, j'ai rencontré des footballeurs. Vous savez, c'est toujours pareil. C'est qu'au départ, on ne sait pas. Donc moi, je me disais, non, mais le football professionnel, c'est inaccessible et c'est tous des cons. Voilà. Mais je ne le pensais pas comme ça. Mais c'est inconsciemment, en fait. On a des stéréotypes. Et en gros, voilà, pour moi, je voyais les 10 joueurs qu'il y avait à la télé. Je n'imaginais pas l'ampleur du foot, ce que c'était que le football professionnel, justement. Mais après, j'ai appris à l'aimer, le découvrir et tout ça. Mais au départ, j'avais ces a priori-là. Donc, du coup, je me suis dit, mais moi, jamais j'irai là-dedans. Et je vais faire des bons gros produits solides pour les passionnés de foot qui veulent, dans la durée, que leur paire, elle leur sert à faire, quelque part, c'est leur dernière paire de chaussures de foot, quoi. Voilà. C'était comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai créé le produit en me disant « je veux un produit solide, résistant, vrai, qui dure ». Voilà. Et du coup, ça a marché. Mon produit, il est reconnu pour sa solidité, son confort aussi. C'est vraiment un produit confortable. Voilà. Donc ça, c'était la première version de Millennium.
Mais moi, ce qui m'a étonné, puisque on va le préciser, vous m'avez envoyé une paire pour que je la teste, entre guillemets. Alors, pas la tester sur les terrains, mais que je l'ai en main, que je vois la qualité du produit, que je puisse au moins la passer pour voir un peu le confort, etc. Et moi, la première chose, quand j'ai ouvert la boîte, qui m'a surpris, que je l'ai prise en main, c'est sa légèreté. C'est bizarre parce qu'en fait, c'est pas quelque chose sur lequel vous aviez envie d'aller absolument au départ.
Oui.
Et en fait, la première impression que moi j'ai eue en prenant la chaussure en main, parce que j'avais aussi, alors des chaussures, j'en ai vu plein, j'en ai vu en cuir tout petit, avec du cuir très lourd tout petit. J'ai vu aussi les matières synthétiques plus récentes, qui fait que la chaussure est effectivement ultra légère. J'ai aussi vu des chaussures qui craquaient au bout d'un certain nombre de chocs, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué sur des matières synthétiques, d'avoir des chaussures qui durent vraiment. Et bizarrement, ma première impression a été de me dire « Ouah, c'est beaucoup plus léger que ce que je pensais ». Et en fait, alors je le précise parce que comme c'est un peu un hors-série, un premier numéro, ça va être renouvelé avec d'autres initiatives, des choses qui me plaisent, etc. Je le dis tout de suite, hein, c'est pas du tout sponsorisé, il n'y a pas de choses comme ça.
Vous allez m'envoyer la paire.
Voilà, la paire de chaussures, je vous la renvoie, c'est prévu, etc. Donc,
je crois qu'on vous a déjà mis le bon retour dans le colis, non?
Oui, d'ailleurs, j'étais surpris parce que normalement, c'est moi qui j'aurais dû faire le bon retour moi-même. Donc,
voilà. Non, mais voilà.
Non, mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de relation financière sur ce type de projet. Donc, je suis tout à fait libre de dire ce que je pense comme ça. Mais effectivement, cette chaussure, tout à l'heure, c'est marrant parce que vous disiez. Oui, on me dit, j'ai senti la chaussure, premier truc que je fais, je sens la chaussure, etc. Et je dois bien avouer que c'est un réflexe que j'ai eu aussi. Parce que le cuir a une odeur, ça ne me viendrait pas à l'idée de sentir une chaussure synthétique ou même des baskets que je mets, ou je sens pas ce genre de chaussure-là. Par contre, c'est vrai que du cuir comme ça, c'est le premier réflexe, ça a été de le sentir aussi. Et justement, on parlait tout à l'heure de vintage. Les nouvelles chaussures, souvent, c'est en tissu. Alors, en tissu, ça veut tout et rien dire. On va dire en matière synthétique, avec parfois même des inserts de fibres de carbone. Je me suis un peu documenté. On a des choses maintenant qui sont inimaginable. Enfin, si on se disait, il y a 15 ans, on aurait ce type de chaussures-là, c'est assez improbable. C'est des chaussures sans couture. Bah, vous répondez par du cuir, par des coutures. Et du coup, je me demandais si c'était une volonté aussi de se démarquer ou c'était simplement le processus de création d'une chaussure durable aussi. Parce que quand on sait qu'on va coudre la semelle, bah, elle a beaucoup plus de chances de ne pas se décoller, en l'occurrence.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous me dites. Première chose, je vais répondre à ce que vous dites tout à l'heure par sont beaucoup plus légères que ce que je pensais. En fait, c'est un peu mon problème. C'est que j'ai tellement voulu pas revendiquer de la technicité pour pas faire de l'argument technique que des moments, je suis un petit peu... Comment dire, j'en parle pas assez ou je le dis pas assez, que justement, enfin, c'est bien les chaussures qui servent à jouer au foot et qu'elles sont très bien. Puis bon, moi, le marketing, c'est moi qui fais tout, hein, donc j'ai pas service avec 15 000 personnes qui expliqueraient très bien, voilà. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le mette encore plus en avant, mais c'est vrai que j'ai tellement pas voulu au départ faire de l'argument technique. Clairement, j'avais peur, hein, comme je vous ai dit, j'avais peur de revendiquer des choses. Donc, du coup, au départ, j'en ai pas fait trois caisses sur le plus technique, en fait. J'en ai fait, par contre, j'ai tout fait pour qu'elle soit solide, en effet, et résistant. Et vous savez, actuellement, il y a une grosse tendance au développement durable. Moi, j'appelle des fois ça un peu de greenwashing. Alors, il y en a qui font des choses... Alors, c'est surtout dans les baskets, mais en cuir de poire, pomme, pêche, abricot, là. Mmh. En disant, oui, il y a de la peau de banane, ça reste du pétrole et du polyuréthane. Le cuir, en fait, tant qu'on mange un steak à midi, il y a du cuir. Hein, donc, c'est du recyclage, le cuir. C'est parce qu'on mange de la viande qu'il y a du déchet. Et le cuir, c'est du déchet des viandes qu'on mange. Voilà. Donc, après, moi, je ne suis pas ni militante, ni pro, ni pour cuir, tout ça. Mais ça reste un produit qui est solide, vraiment, qui a des propriétés physico-mécaniques qui sont inégalées, voilà. Donc voilà, donc moi, j'ai voulu faire un produit solide, donc c'est pour ça que je suis repartie sur du cuir. Après, je n'ai pas pris n'importe quel cuir, et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, les cuirs des années 70 et maintenant, on n'a quand même plus les mêmes cuirs. Donc, moi, j'ai pris des choses qui sont très souples, très foulonnées. Enfin, c'est des gants. Enfin, c'est à la fois solide et à la fois très doux, très, très souple. Et voilà, j'ai fait exprès. J'ai fait attention à ce que j'ai fait. Et petite anecdote aussi, tout à l'heure, vous disiez, je les ai sentis, tout ça. En fait, moi, j'aime bien les jeux de mots... pour parler du nom de ma marque. Enfin, au début, j'avais mis en baseline parce que je voulais vraiment qu'on soit sur les sensations qu'on a quand on joue au foot. Enfin, vraiment la sensation de la balle et ouais, vraiment qu'on soit sur ces cinq sens, quoi. Le alors pas le goût peut-être, mais au moins l'odeur, la vue. Enfin, vraiment que ça soit quelque chose de physique en fait, mais de vrai. Enfin voilà. En plus, comme on est dans le monde du virtuel et tout. Enfin. Voilà, j'ai envie d'avoir un vrai bon produit physique, quoi. Et donc, j'avais mis comme baseline sensation à fleur de peau, parce que le cuir, c'est un cuir lisse, ça s'appelle le cuir pleine fleur. Et donc, je trouvais que c'était bien, ça rappelait le fleur à fleur de peau, pleine fleur. Et puis, la peau, c'est le cuir. Enfin, voilà. Sauf que ma sœur m'a dit qu'on aurait dit une baseline de préservatif. Comme je n'étais pas une marque de capote, du coup, je l'ai abandonné.
Il valait mieux changer.
Voilà. Et quand après on le dit comme ça, on dit ah oui, bah oui. Mais la première marque, c'était mille et mille sensations à fleur de peau.
D'accord. Et justement, là, je parlais des différences de matériaux, même de conception de chaussures avec et sans couture, parce que maintenant on a des chaussures qui sont d'un bloc, sans aucune couture, etc. Il y a des modèles, là, j'ai revérifié avant d'enregistrer, justement, où c'est clairement dit modèle sans couture. Une autre grande différence, et ça, c'est une des choses que j'apprécie aussi, mais on va revenir au vintage, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les chaussures, elles ont beaucoup des couleurs flashy, pour beaucoup d'entre elles. Les principaux équipementiers, voilà, sortent des chaussures vert pomme, rose fluo, voilà, etc. Et vous allez à l'inverse de ça, c'est-à-dire que vous avez un modèle noir en cuir, tout noir, avec juste le petit logo 1000 et 1000 orange. Et puis, alors moi, celle que vous m'avez envoyée est celle que je trouve absolument magnifique, très sincèrement, esthétiquement. Après, les questions esthétiques sont très personnelles en fonction de nos goûts, de ce qu'on ressent par rapport à, on va dire, à la beauté de manière générale, mais... La version bleu-blanc-rouge, elle est sublime, quoi. Je trouve que l'idée... Alors, en plus, ça va effectivement très bien avec le 100% Made in France. Enfin, avec les chaussures Made in France. Ça colle parfaitement à l'idée de 1000 et 1000. J'encourage les personnes qui vont nous écouter On s'en rend compte, hein, de toute façon, rien que sur les photos sur le site de Millimille, on s'en rend compte qu'on a affaire à un très beau produit. Et moi qui les ai en main, je confirme l'impression que j'avais en photo, c'est que ce bleu-blanc-rouge est magnifique. Et donc, entre la version tout noir et la version bleu-blanc-rouge, on est très loin des couleurs flashy.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tout ça, je l'ai écrit quand on crée une marque. En fait, il faut vraiment écrire ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai passé des heures, comme je vous dis, à me plonger dans le monde du foot, à beaucoup lire, à beaucoup voir ce que je voulais raconter. Et je vous ai dit, je voulais un produit vrai. Moi, je ne me suis pas interdit de faire des couleurs. En fait, j'ai sorti des crampons bleu ciel, j'en ai sorti. Mais en fait, comme au départ, déjà, la couleur, elle est dans le cuir. Forcément, ça sera naturel parce que c'est pas un plastique en fait, donc ça brille pas, ça reste profond, voilà. Comme déjà la matière, elle est vraie, le produit, même quand il est en couleur, parce que là, c'est vrai, en ce moment, j'en ai pas mis en gamme, mais même quand il est en couleur, le produit, il est beau en fait. Voilà, j'en ai fait des fuchsias, j'en ai fait, voilà, c'est la matière déjà qui apporte ça en fait. Oui, je fais pas du fluo, enfin voilà, mais j'ai eu fait des crampons dorés, mais qui même en étant doré était très, ça faisait coupe du monde quoi, ça faisait pas bling bling en fait, ça faisait je soulève la coupe, voilà. Donc ça c'est pour l'histoire de la couleur, parce que je voulais pas non plus, moi je m'interdis rien, en fait je puise dans des racines, je puise dans du vintage, mais moi je voulais pas faire un revival de trucs de la chaussure 1900, ou je voulais toujours pareil, un vrai truc quoi. Je sais pas, une chaussure sur étagère en fait, hein. Donc je voulais être quand même dans l'air du temps. Par exemple, il y a quand même la semelle orange, elle est orange, donc comme je vous ai dit, donc l'orange, il est venu, c'était très 70s en fait, mais aussi il est venu, vous savez, les bocaux de confiture là, oui. Voilà, caoutchouc orange, parfait, ouais. Voilà. Et ben c'était ça aussi, ce côté un peu presque do it yourself aussi. Je fais mes confitures, enfin le foot de la maison, quoi. Je sais pas comment vous dire. C'était un peu ça, voilà, que je voulais évoquer, quoi. Et pour terminer sur le bleu, blanc, rouge, du coup, comme je suis là pour vous raconter mes secrets, quand on entreprend, on se lance dans l'inconnu. Puis là, en plus, moi, je me lançais mille fois dans l'inconnu, parce qu'en plus, dans les marques qui se créaient dans le foot, il n'y en avait pas. Enfin, voilà, donc c'était vraiment tout nouveau dans la chaussure de foot. Et du coup, bon, il y a eu des bêtises qui ont été faites. Donc, j'ai sorti des crampons dorés jusqu'au 47, par exemple. J'ai fait des bêtises. Mais j'ai eu aussi des surprises et des grandes réussites. Donc, par exemple, dans mes grandes fiertés, une de mes fiertés, c'est la forme et le volume chaussant. Ça, je ne me suis pas trompée, en fait, parce que j'ai tout développé moi-même, le volume, pour que ça corresponde aux pieds. Et en fait, quand vous les mettez, ça fait un peu comme un gant. Donc je pense que j'ai réussi le volume du pied. Voilà, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites et il y a eu des surprises. Et le bleu, blanc, rouge, c'est une surprise. C'est-à-dire que, en fait, j'ai conçu le modèle en trois parties. J'ai conçu mon design. Et puis, quand on a lancé, nous, le projet en... On voulait être prêt, on voulait exister pour la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, en fait. On a lancé les précommandes et la commercialisation au mois de février-mars pour être prêt en juin. Et donc, les premiers modèles qu'on avait fait, on en avait fait un bleu, un blanc, un noir, voilà. On a lancé comme ça. On se rapprochait de la Coupe du Monde. On a commencé à se dire, bah, tiens, ça pourrait être rigolo de faire des chaussures aux couleurs des pays. Et du coup, j'ai pris mon modèle, et bleu, blanc, et trois morceaux, bleu, blanc, rouge, tout simplement. Et quelle surprise! Et ce qui est rigolo, c'est que à ce moment-là, j'avais fait un petit film de présentation de la marque, un film qui est encore d'ailleurs sur mon site internet. Et mon associé n'était pas là quand j'avais fait le film. Et il n'avait pas vu, je ne lui avais pas dit que j'avais fait un modèle bleu, blanc, rouge. Il l'a vu dans le film, en fait. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est génial. Donc ça, ça a été vraiment la belle surprise et c'est la meilleure vente de 1000 et 1000. J'aurais pas cru et voilà, c'est la meilleure vente. Voilà. Et puis les modèles tout noirs. Alors le modèle tout noir, bon, il y a l'histoire de la sobriété et tout. Voilà.
De l'élégance.
Moi, j'aime bien. De l'élégance, ouais, aussi. Et puis, ça va nous amener à la version 2 de 1000 et 1000. On va vous voir. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'au départ, je disais que les footballeurs professionnels, c'était tous des. Voilà. Et maintenant, j'ai très envie de. Parce que j'en ai rencontré. Et j'ai très envie de chausser des footballeurs professionnels. C'est en cours, en fait. Et donc là, on est en train de développer toute une nouvelle gamme de crampons pour les professionnels. On ne va pas faire de gros changements dans nos valeurs fondatrices, c'est-à-dire la. Le cuir, voilà, mais on va apporter par des micro-réglages dont j'ai mon secret, mais peut-être plus de maintien ou dans le déroulé du pied pour plus de performance. On est en train de faire des choses aussi avec Smart Power, une semelle particulière, enfin voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai très envie, maintenant que je vais rencontrer des footballeurs professionnels très sympathiques et charmants, j'ai très envie d'équiper les footballeurs. Et donc pourquoi je fais le lien avec la chaussure noire? Parce que j'ai toujours pas plus de budget pour équiper les footballeurs. Et puis, j'ai pas envie, un peu tout à l'heure, vous l'avez dit, moi j'ai envie que les gens qui achètent mes produits, enfin voilà, j'ai pas envie de payer pour que les gens ils achètent mes produits ou qu'ils les portent. Et j'ai envie que ceux qui les porte, ils soient fiers de moi. Voilà, déjà, des footballeurs professionnels me disaient, enfin, il y en a qui m'ont dit avoir aussi envie de modèles très sobres. Et puis surtout ceux qui se sont fait virer par les grandes maisons et qui n'ont plus envie de mettre en avant d'autres marques et tout. Il y en a qui maintenant même masquent les marques, voilà. Donc du coup, je les invite à s'intéresser avec 1000 et 1000 parce que bientôt, il y aura des modèles plus sobres, 1000 et 1000 aussi, voilà, tout noir.
Ça répond à une question que je comptais vous poser sur est-ce qu'il y a des nouveaux produits, enfin une nouvelle gamme qui est en travail, en conception, en élaboration.
On est à fond. Le slogan de l'année 2022 chez 1000 et 1000, c'est libre, libre de créer. Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du parcours d'entrepreneur. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que je voulais faire, ce que j'avais envie de faire et pourquoi je tenais tant au foot. Parce qu'en fait, moi, comme je vous ai dit, ça fait 8 ans maintenant que j'ai mon entreprise et mon associé est parti au bout d'un an et demi. Et souvent, on m'a dit, mais arrête le foot. Et puis, il y a eu des fois où je disais, mais j'arrête le foot. Et puis, en fait, j'arrivais pas à arrêter. Alors, au début, je trouvais des excuses. Je disais, oui, mais le foot, ça me fait de la communication, oui. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, mais non, mais t'aimes ça, en fait. T'aimes ce milieu, t'aimes ce truc, ça te plaît. Voilà. J'ai commencé à accepter déjà que j'aimais le foot. Et puis après, du coup, j'ai embauché un footballeur. Et oui, et donc, je commençais à dire, voilà, au départ, ma mission, 1000 et 1000, c'est faire que les gens ils soient bien dans leur pompe. C'est vraiment un truc qui est important pour moi, au sens propre comme au figuré. Et quand je disais être libre, et donc moi, je veux que les gens soient bien dans leur pompe pour jouer au foot, pour faire ce qu'ils veulent faire. Et pour pouvoir faire ça, il fallait qu'on soit libre de créer. Et jusqu'à présent, c'était pas évident. En fait, parce que moi, les premières années, quand je vous dis le chemin de l'entrepreneur, c'est que quelque part, j'avais beaucoup de freins, je m'étais mis beaucoup de freins moi-même. Je me disais, mais c'est pas possible qu'un footballeur joue avec mes produits. C'est pas possible, je peux pas faire ça, j'ai pas ça, j'ai pas tel moyen, je peux pas, machin. Et en fait, depuis un an ou deux, j'ai commencé à faire libérer, délivrer. Et au lieu de me dire, j'ai pas, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour avoir? Et la vie, elle change, en fait, quand vous commencez à raisonner comme ça. Quand vous dites plus, je suis pas footballeur, mais vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour être, pour devenir footballeur? Tout change, en fait. Tout change. Dans les projets là, de 1000 et 1000, mon envie, c'était vraiment de pouvoir être en capacité de créer facilement. Et jusqu'à présent, ce n'était pas évident parce que je n'avais pas forcément les outils pour créer facilement. Donc, il fallait qu'on aille voir des sous-traitants ou des prestataires qui pouvaient me faire le patronage des modèles, enfin, toute la création. En fait, on assemblait plein de compétences et là, on est en train de tout réintégrer. Donc, dans les projets en cours, on est en train de faire des des nouveaux modèles. On renforce notre partenariat avec Smart Power sur la semelle de la chaussure. Et là, je vous le dis en avant-première, pas encore officielle.
Attention, musique de suspense.
On est en train d'investir. Enfin, je vais acheter un bâtiment dans lequel que je vais faire un atelier pour pouvoir prototyper et faire mes petites séries, mais pour pouvoir faire facilement des chaussures. Donc, pour l'instant, j'achète le bâtiment. Après, on va avoir ce que je ne sais pas encore trop, ce que j'hésite, parce que en fait, on peut dimensionner un projet, on peut le dimensionner, on peut faire un minima ou plus important. J'aimerais bien pouvoir m'acheter une machine numérique de découpe, de la création, pouvoir couper facilement les modèles et les piquer. Mais pour ça, il faut des moyens. Donc, ce que j'hésite, j'ai presque envie de refaire une campagne de financement participatif. Mais des fois, je trouve que ça fait un peu faire l'aumône. Donc, faut arriver à le... Parce que je ne veux pas non plus dire aidez-moi. Voilà, donc, je suis un peu en réflexion et en questionnement là-dessus. Mais en même temps, si ça me permettait de faire encore plus facilement des nouveaux modèles, je trouve que ça serait cool. Donc, voilà, je suis un peu encore en réflexion.
Oui, évidemment que certains peuvent le voir comme ça. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. C'est aussi soutenir des projets qui nous intéressent, qui nous tiennent à cœur. C'est réussir à être utile dans la consécration de projets, de personnes qui ont des idées, qui veulent accélérer, qui veulent créer, etc. Et moi, j'ai participé à plusieurs financements de campagnes pour des livres, pour des choses liées à l'environnement, pour voilà, c'est parce que c'est ça semble utile de
ça fait du sens.
Voilà, ça fait ouais. du sens exactement. Donc moi, je trouve que ces campagnes-là sont
bien.
Ouais, sont bien, sont utiles. C'est bien pour tout le monde en fait. Ceux qui donnent ont l'impression de donner utile justement et de participer à des projets concrets et auxquels ils tiennent, etc. Ça aide la personne de l'autre côté à voir ses aspirations se transformer en réalisation, et je trouve ça très intéressant. Donc s'il y a une campagne, je peux déjà vous dire que je participerai. Vous avez
ça,
au moins
cool.
un souscripteur
En fait, comme ma société elle a quand même 8 ans, je voulais pas non plus dire que, enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, mais c'est vrai que si on a le soutien de plusieurs, forcément on fera des choses plus grandes, investir pour pouvoir faire des nouveaux produits et vraiment aller aussi le fait de pouvoir être autonome sur la découpe me permettrait aussi de pouvoir faire aussi de la chaussure sur mesure. J'ai de la capacité à pouvoir numériser un pied et faire une chaussure sur mesure. Ça serait plus facile aussi pour pouvoir faire ça. Donc il y a ce genre de choses-là, même si je ne sais pas encore trop s'il peut y avoir de la demande de footballeurs professionnels, mais j'aimerais bien aller aussi vers de l'ultra-personnalisation. Je sais que souvent, il y a des gens qui ont des problèmes aussi, des fois de pied large ou même de grandes pointures. Il y a des gens qui font des grandes pointures qu'on ne peut pas équiper. Donc voilà, c'est un peu les projets, les réflexions à venir.
Alors, tout ce qui est lié à la personnalisation marche très bien. Évidemment, déjà, on le voit même avec des grandes marques. Hein. Alors, personnalisation, il peut y avoir plein de choses. Hein. Là, on parlait de faire sur mesure, mais par exemple, mettre son petit logo, mettre la petite phrase, changer la couleur juste pour la personne, enfin, ce genre de choses-là, c'est des choses qui marchent très bien.
Ben, nous, en fait, on le fait déjà. Alors, pareil, toujours pareil, en termes de marketing, c'est un peu pas super bien présenté sur mon site, parce que comme je bricole tout et que je suis meilleure à faire des chaussures qu'à mon site internet, c'est plus ou moins bien présenté, mais en fait, on le fait. Mais c'est vrai qu'actuellement, on le fait, mais on embête un peu l'atelier de production. Voilà. Et moi, j'ai envie vraiment de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Quoi. Voilà. Mais puis je suis hyper créative, donc j'ai plein d'idées. J'ai déjà fait des chaussures trophées avec des maillots de foot. Plein de choses.
Alors, j'ai encore plusieurs petites questions. On parlait tout à l'heure des footballeurs. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des contrats de sponsoring de plusieurs centaines de millions d'euros chez les mastodontes du métier. Vous disiez, moi, j'ai pas envie de payer des footballeurs pour qu'ils portent mes chaussures. Je préfère qu'ils soient heureux, que ça fasse du sens pour eux aussi d'encourager ce type d'initiative Made in France et puis l'artisanat aussi. C'est quand même deux choses très importantes et aussi dans le tissu économique français, ça compte beaucoup. Vous disiez aussi que vous aviez rencontré des footballeurs professionnels. Comment ils vous aident du coup en termes de retour sur justement bah, peut-être aussi l'élaboration de la nouvelle gamme.
Alors, moi, j'en suis au tout début hein, de ma rencontre avec les footballeurs. Je ne savais même pas trop comment faire, en fait, parce que, comme je dis, moi, mon associé, il est parti il y a 5 ans. Alors, j'ai rencontré un peu des présidents de clubs à la SSE ou des gens comme ça, mais c'était tellement haut. Enfin, donc, rencontrer des footballeurs, pour moi, ce n'était pas spécialement évident. Donc, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai tapé sur LinkedIn... footballeur, et je me suis dit, est-ce qu'il y en a ? Et il y en a ! Et donc, du coup, j'ai commencé déjà à développer mon réseau comme ça. Clairement, alors, je vais, pareil, répondre à vos plusieurs questions. L'histoire du foot et du budget. Moi, je suis une utopiste, et je crois, mais c'est ma conviction profonde, hein, mais je crois que ça va arriver qu'il faut que j'ai le bon produit. Pour l'instant, mon produit, il n'est pas encore assez performant pour professionnel. Enfin, il va très bien, mais il y a encore des choses, des réglages, des petits trucs. Donc, mais quand j'aurai le bon produit et que je suis en train de faire évoluer, là, je suis convaincue, enfin, moi, je crois qu'il y a des footballeurs qui vont avoir envie de porter des vraies valeurs et même que même eux, ça les mettra, enfin, quelque part, même pour leur image. Voilà. Alors, après, il y a tellement d'argent en jeu que les très, très grands footballeurs, moi, j'ose pas imaginer. Je suis une douce rêveuse, mais je suis consciente quand même, hein, concrète. Voilà. Je me dis pas qu'ils vont renoncer pour moi à des millions d'euros. Hein, voilà. Mais je sais pas, au moins, on m'a dit, je sais pas, il y a combien, il y a 1000 joueurs en Ligue 1 déjà, plus la Ligue 2. Enfin, combien il y a de joueurs, c'est beaucoup. Il n'y a pas que 11 joueurs en équipe de France. Et il y en a plein qui ne sont pas sponsorisés. Et c'est ça que, justement, mon état d'esprit a changé en 7 ans. C'est qu'avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais des stéréotypes. Je me disais, mais tous, ils ne voudront pas. Et en fait, non, le monde du foot, déjà, il y a des... Voilà, tous ne sont pas sponsorisés. Donc, même moi, si j'ai des joueurs, même en... Enfin, voilà,
en Ligue 2,
nationale.
Ouais, bien sûr.
Ce sera très bien, voilà. Donc déjà, voilà, pour l'histoire de budget, il y a ça. Il y a aussi, après, moi, je ne m'interdis rien. Je ne suis pas spécialement à la recherche d'investisseurs ou quoi, mais il y aurait un jour quelqu'un, un footballeur qui voudrait créer même sa marque. Moi, je serais prêt à faire un partenariat ou à ouvrir ou à... Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis fermée à rien. Donc, ça, c'est la relation avec les footballeurs. Et voilà. Donc, je crois que ça va arriver. Après, comment ça va arriver, j'en sais rien. Mais il faut y croire pour le vouloir. Donc, je pense que ça va arriver. J'aurai des pros en crampons mille et mille.
Vous parliez d'utopie. Une utopie reste une utopie jusqu'à ce qu'elle se concrétise, en fait.
Il faut déjà y croire. Alors qu'au départ, j'y croyais pas, en fait. C'est ça que je vous dis. C'est qu'au départ, j'y croyais pas. Et là, maintenant, je commence à y croire. Donc ça, c'est la première chose. C'est sur les footballeurs. Après, vous m'avez demandé comment ils m'aident. Ça dépend. Alors, comme je vous dis, pour l'instant, j'en suis à 3, 4, 5 hein, avec qui je discute un peu comme ça. Il y en a plein que j'ai jamais vu. On parle un peu comme ça. Voilà. En plus, avec le Covid et tout, là, c'est pas évident. Hein, donc, voilà. Donc, après, clairement, ils m'aident, les footballeurs, déjà rien qu'à parler, à suivre leur parcours. Des fois, à me dire, ah ben tiens, dans mes chaussures, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Justement, qui sont sponsorisés, ils ne peuvent pas mettre mes crampons. Donc, ils vont me dire, un jour, j'en ai un qui me dit, ah bah, j'ai chaud. Alors, déjà, je leur explique ce que sont leurs chaussures. Je leur dis, bah, tu vois, tes chaussures, en fait, ce n'est pas du cuir. Parce que, ah, mais si, eux, là, la grande marque, ils mettent que c'est du cuir. Oui, non, mais il y a 2 cm de plastique par-dessus, donc ce n'est pas du cuir. Donc, déjà, je décode, voilà. Donc, du coup, c'est des beaux échanges et tout. Donc, voilà, il y en a qui m'ont envoyé leurs chaussures de la concurrence qu'ils ont mis. Donc, ils vont me dire, bah, tiens, je les ai mis tant de temps, c'est usé de telle manière, voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Pourquoi je me suis aussi intéressée au foot et aux footballeurs? C'est parce que, en fait, j'ai découvert qu'un footballeur professionnel, il vit la même chose que moi, je vis en entrepreneur. C'est un entrepreneur, en fait, c'est pas un salarié. Enfin, il doit gérer sa carrière, il a des questions de communication, il a des questions de choix, il a des échecs. Plus je parle avec des pros, plus je vis ce que c'est vivre ma vie, quoi. Voilà. Donc, du coup, et ça, j'adore, moi. J'adore parce que, du coup, je découvre qu'on peut avoir les mêmes problématiques de gestion, de choix ou de déception ou de communication ou mentalité. Enfin, voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. Clairement, pour résumer, comment les footballeurs professionnels m'aident actuellement en partageant leur quotidien, soit de footballeur, soit de leur vécu et de leurs difficultés et tout ça. Et après, clairement, là, j'en suis au début. Donc, comme je vous ai dit, on est en train de créer des nouveaux modèles. On les a pas encore, donc j'ai pas encore eu besoin de faire des tests en fait, mais je vais en avoir besoin. Donc clairement là, je vais chercher des gens qui jouent au moins 2-3 fois par semaine avec mes produits. Je vais être en recherche de footballeurs. Je vais être en recherche de testeurs en fait, voilà. Donc il faudra que j'augmente mon réseau des 4-5. Voilà. Et puis il se trouve aussi que moi, je fais beaucoup de formations et j'interviens et je travaille en partenariat avec une école de podologie de Lyon. Et du coup, on a mis en place un protocole de test en laboratoire. Et donc, je vais sûrement avoir besoin peut-être de faire tester des chaussures en labo et tant qu'à faire, plutôt que de le prendre avec des joueurs ici. Peut-être que je demanderai à des pros à voir, quoi. Mais voilà, on est en train de mettre en place tout ça. Donc, pour l'instant, je ne les sollicite pas trop parce que voilà, il n'y a pas besoin. Et puis, parce que aussi, j'écoute aussi beaucoup les footballeurs. Voilà.
Bon, s'il y a des footballeurs qui nous écoutent, tous les liens seront dans la description du podcast. Voilà. Pour vous contacter, etc. ce sera toujours utile. Je reviens un instant sur le Made in France, parce que je disais tout à l'heure que effectivement ça revenait à la mode. Alors c'est plus qu'une mode maintenant, parce que on voit des entreprises qui relocalisent aussi des parties de production. Alors on parlait tout à l'heure de greenwashing. Bon, certains, est-ce que c'est plus pour la communication ou plus par conviction? On sait pas trop, mais on va pas chercher le mal partout. On va dire qu'il y en a aussi beaucoup qui le font par conviction. Il y a plusieurs raisons pour favoriser le Made in France. Il y a évidemment le coût carbone moins élevé. Il y a les conditions de travail qui sont meilleures en France que dans d'autres pays. Il y a aussi le fait que, si on parle de travail, ça donne du travail aussi de votre côté, enfin, sur la production de chaussures à des artisans. Ça permet aussi d'entretenir la base de connaissances, parce que les métiers peuvent se perdre aussi. Si on ne parvient plus à trouver des personnes qui s'intéressent à ces métiers-là, c'est des compétences et des connaissances qui peuvent se perdre. Si je m'arrête un instant sur l'aspect environnemental, vous avez dit tout à l'heure qu'une des réflexions, c'était de faire des chaussures plus durables. J'ai vu aussi que vous proposiez en plus des services de nettoyage et ressemelage. Et donc, je voulais, pour prolonger la durée de vie des chaussures, et donc, comme il y a un terme technique là-dedans, je me disais que ce serait bien que vous puissiez nous expliquer à quoi ça correspond.
C'est lequel, le terme technique, le ressemelage ?
Ouais, ressemelage. Je suis pas sûr que beaucoup de personnes soient au fait de à quoi ça correspond au niveau d'une chaussure.
On les ressuscite, en fait. Donc, on enlève la semelle, on remet une autre semelle. En fait, ce qui se passe, c'est que les cuirs, ils sont tellement solides que des fois, ça arrive que la semelle, elle se détermine avant le cuir, en fait. Donc, du coup, on remplace. Dans la chaussure de ville, il y a souvent plus de demandes que dans la chaussure de foot. Parce que comme on est sur de l'herbe, quand même, puis qu'elles sont tellement solides, chez des footballeurs, ils les gardent 3 ans. Des fois, c'est mon drame, elles sont trop solides.
Bah oui, il ne faudrait pas faire trop solide pour qu'ils en rachètent d'autres.
Voilà, c'est ça. Je vais faire comme les grandes marques, je vais faire un modèle à chaque... pour la Saint-Valentin,
c'est ça.
Pour la fête
pour Halloween.
Halloween, voilà. J'ai déjà Halloween
c'est bon, avec l'orange, ça marche.
Orange, ça marche, j'ai déjà fait ça. Donc, le ressemelage, oui, c'est ça, en fait. C'est vrai, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion l'autre jour. On l'a fait très naturellement. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une paire. On a enlevé la semelle, on a remis une autre. Le gars, il n'en revenait pas. Et en fait, je me suis dit, mais on aurait dû prendre des photos parce qu'en fait, c'est tellement pas courant qu'on fait ça. Alors déjà, il faut savoir que le métier de cordonnier redevient tendance. Moi, je fais beaucoup de formations dans un centre de formation où il y a aussi des formations de cordonnerie. Déjà, il y a une tendance à ce que les gens se disent, tiens, est-ce que je peux réparer plutôt que jeter? Donc ça, c'est une grande tendance. Mais nous, nos chaussures, vous voyez, si vous allez voir votre cordonnier pour ressemeler nos semelles oranges ou tout ça, c'est pas évident. Mais, et nous, comme on a tout le matériel, on propose aux gens, vous nous renvoyez la semelle et on la répare. Et puis après, on sait qu'on sait faire aussi, c'est que même sur l'entretien, c'est que déjà rien que la manière de nettoyer le cuir, on sait faire quoi. Donc même sans la ressemeler, déjà je lui change les lacets, la semelle intérieure, je redonne un coup de shampoing et de tirage, et la chaussure déjà, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait quoi.
Je pense à ça, vu qu'on a beaucoup parlé de chaussures, etc. On a parlé de la phase de réflexion avant de lancer la production. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes pour la création d'une nouvelle chaussure et ensuite sa production. En gros, à partir du moment où vous avez le modèle sur papier, vous l'avez dessiné, etc., etc., comment ça se passe jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire la chaussure est prête à être envoyée. Et combien d'heures il faut ? Parce que ça, c'est important. Combien d'heures il faut ?
Ce qui est un peu spécifique, nous, comme je vous ai dit, c'est qu'actuellement, on est en recherche et développement, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer des choses. Donc, par exemple, comme je vous ai dit, j'aimerais améliorer la stabilité ou pour donner plus d'impulse. Il y a un truc tout bête, c'est que ma semelle, elle est cousue tout le long. Et si je veux faire plus de rigidité à l'arrière, j'ai un problème par rapport à ma couture. Il faut que je trouve des solutions techniques pour pouvoir rigidifier sans rendre impossible la couture. Parce que d'habitude, on va mettre ce qu'on appelle une première de montage avec une partie, un cambrion à l'arrière, enfin des trucs techniques, je ne vais pas vous raconter, mais qui font qu'après, on ne pourrait plus coudre tout autour de la semelle. Donc en fait, on est en train de faire des choses comme ça ou de travailler à l'arrière pour peut-être améliorer la coque, peut-être mettre une petite coque. Donc ça, on va dire, ça c'est un peu de la R&D. Mais quand on est, on va dire, sur un... Si je voulais faire un nouveau modèle de chaussure, au départ, nous, on a la forme. La forme, c'est le volume chaussant de la chaussure. Donc, on a la forme. Donc, moi, la forme, comme je vous ai dit, je l'ai trop bien réussie. Donc, je ne vais pas la refaire. Là, elle va bien. Enfin, il y a des petits micro-détails. Donc, non, mais on va dire globalement, j'ai ma forme. Comme je deviens... Puis j'ai repris plus d'expérience aussi depuis 8 ans. Du coup, j'affine des choses que personne ne voit, en fait. Mais c'est là que ça fait la différence, quoi. C'est toute la différence. C'est comme quand moi, je fais de la cuisine ou quand c'est un chef étoilé. Moi, là, je fais de la chaussure étoilée. Donc après, je dessine, en fait, sur ma forme. Je vais poser les lignes, je vais dessiner mon modèle. Ça, je vous parle de la création, vraiment. Après, je dessine sur ma forme qui est en 3D. Et après, je dois le reposer en 2D. Je vais sortir le dessin de ma forme et je vais le mettre à plat. Donc là, on attaque l'étape de patronage, en fait. Et c'est là aussi que je vous disais, c'est qu'on s'est doté de moyens pour patronner. C'est que maintenant, on a investi dans un logiciel de patronage. On peut patronner nous-mêmes. Alors qu'avant, il fallait que j'aille voir des gens. Et du coup, je transmette, que j'explique. Alors que là, c'est nous, maintenant, qui faisons ça. Et c'est génial. Donc, on fait le patronage. Donc, le patronage, c'est on réfléchit à chaque pièce. Pour coudre une pièce sur une autre, il y a des prises de piquage. Puis, on fait des bords, des jointés, des machins. Donc, voilà, on fait tout ce truc de patronage. Donc là, pour concevoir un modèle, enfin... Rien que le patronage, déjà, il faut 3-4 jours, quoi. Enfin, voilà. Et puis après, le tester, le refaire. Enfin, voilà. Normalement, vraiment, ouais, il faut un an pour faire un nouveau modèle, vraiment nouveau modèle. Voilà. Les tests, le refaire. Voilà. Et puis, comme je vous dis, si après, on commence à mettre de l'innovation, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de chaussures sur mesure. Si je veux faire des semelles sur mesure, il faut que je trouve des manières de faire des semelles. Donc là, c'est plus un an, c'est 2 ans de recherche et de développement, quoi. Donc, mais là, je reviens simple. Donc, j'ai ma forme, je fais mes lignes, je dessine après, je fais mon patronage. Et après, j'attaque ma fabrication de mon produit. Donc, quand après, je suis en série, quand mon modèle est en place, je ne fais plus à chaque modèle la partie création. Hein, voilà. Donc, une fois que j'ai mon modèle, j'ai patronné, j'ai fait les plans de mon modèle, j'ai dessiné les pièces, je vais faire la coupe. Déjà, j'achète les matières. Déjà, acheter les bonnes matières, ça a été tout un travail, hein, trouver les bons fournisseurs et tout. J'achète les matières, je coupe mon cuir, je coupe le tissu, voilà. Après la coupe, on fait ce qu'on appelle le parage, c'est-à-dire qu'on affine les bords de la chaussure pour que, par exemple, si je couds un cuir sur un autre, pour que ça ne fasse pas de surépaisseur. Donc voilà, donc je fais le parage de ma chaussure, de ma tige. La tige, c'est le dessus de la chaussure. Je fais le parage. Après, j'assemble tous les morceaux de mon produit. Je vais pouvoir là marquer, peut-être il y a des griffes où on marque la marque de la chaussure sur le dessus. Voilà. Après, une fois qu'on a fait la tige, donc la partie souple de la chaussure, on va la monter sur la forme. Donc là, on a des grosses machines qui viennent et qui montent la chaussure sur la forme. Ensuite, on carde, c'est-à-dire qu'on enlève les parties, en fait, on rend le cuir un peu poreux, on enlève la partie lisse du cuir pour que la semelle elle puisse coller. Ensuite, on imprègne, on met une première couche de colle liquide avec un peu de solvant. Après, on sèche, on remet une deuxième couche de colle, cette fois sans imprégnateur. On fait la même chose sur la semelle, on sèche, après on colle. Après, on presse. Après, on sort de forme, on enlève la forme. Et après, on fait la couture. Et après, on fait la finition, où on appelle ça le bichonnage. On bichonne la perle, on la nettoie et on la met en boîte. Et voilà. Donc, il faut à peu près 2 heures pour faire une paire de chaussures chez nous.
2 heures, d'accord, très bien.
Ouais, il y a à peu près, je le mets sur mon site internet, il y a 160 opérations à peu près. Voilà.
C'est énorme, effectivement.
Ouais, c'est pour ça que la chaussure, elle a été délocalisée, parce que c'est tout fait à la main, en fait. Voilà. Après, il y a des automates hein, de plus en plus, mais c'est vrai que nous, on est dans des petites productions et actuellement, on fait encore beaucoup à la main, quoi.
Alors, pour la petite histoire, avant de passer à la dernière question, on en a parlé au tout début, pourquoi 1000 et 1000.
Alors, pourquoi le 1000 et 1000? En fait, moi, je cherchais un nom qui soit un peu franchouillard, qui est la petite dose d'audace que j'ai d'avoir fait de la chaussure de foot. Je voulais pas, quand j'ai franchouillard, mais je voulais pas faire la chaussure de foot française. Enfin, il y avait eu le slip français, et c'était génial comme nom, mais du coup, après, il y a eu la chaussure française.
On peut pas
le
décliner.
Français,
ouais, voilà,
ouais. C'était pas déclinable. Par exemple, 1083, il a été très malin parce qu'il évoque le Made in France sans le dire, en fait. Voilà. Et donc, moi, je voulais une marque maligne. Et en fait, il s'est trouvé qu'un jour, en bord de terrain, on était au fin fond de la Creuse, enfin chez mes beaux-parents, et puis il y a le ballon qui est sorti du terrain, et mon petit 5 ans a tapé dans la balle, et il a dit en plein dans le 1000 et 1000. Et je me suis dit, peut-être que justement le fait que je ne sois pas trop footballeuse, parce que ce n'est pas vraiment une expression de foot de mettre dans le plein dans le 1000.
Pas forcément, non.
Ben, voilà, mais c'était le fait de viser. Et puis je m'étais dit, ça peut aussi, parce que j'avais prévu un peu le coup, je m'étais dit, si le foot t'en a marre, parce qu'au début, rien n'était gagné.
On peut faire des fléchettes et dans le 1000 et 1000.
On peut faire des fléchettes, on peut faire du golf, on peut. Voilà. Je me dis, le golf, voilà, j'avais pensé au golf. Donc il y avait le côté viser et il y a le côté aussi. 1000 et 1000 possibilités, dans le sens où 1000 dans le sens beaucoup, en fait, 1000 et 1000 et 1000 et 1000 et 1000. Donc le foot, ça implique 1000 et 1000 passionnés, donc ça m'allait bien, voilà. Et puis après, la dernière chose, c'était je m'étais dit, tiens, si un jour j'ai besoin de personnifier la marque, Émile, ça peut être les vieux coachs de foot où il y a Henri, Émile, voilà.
On va essayer de trouver des joueurs qui s'appellent Émile aussi pour la phase de test.
Voilà. C'est ça.
Ce sera peut-être pas le plus évident, mais on doit pouvoir en trouver. On arrive au bout de l'entretien, Isabelle, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Et celle-là, je l'ai gardée même pour les hors-série. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Alors, soit vous avez un nom, soit une orientation qui pourrait m'aider à trouver des nouveaux invités.
Bah écoutez, on a pas mal parlé de mon partenariat avec mon collègue Stéphane Raymond de Smart Power. Donc, je trouve que ça pourrait être une belle suite de le faire venir à votre micro.
Ça marche. Eh ben, je vais lancer une invitation du coup. Parce que c'est vrai qu'on en avait entendu parler à une époque parce qu'il y a eu un record de vitesse battu avec ces crampons-là et ça avait fait beaucoup parler. Et effectivement, comme on est aussi dans cette fameuse tendance du retour au local, au Made in France, etc., c'est vrai que c'est des initiatives que moi, en tout cas, j'aime bien mettre en avant. C'est ça qui m'a donné aussi l'idée de faire un podcast hors série, entre guillemets, enfin, en tout cas des épisodes hors série qui sortent un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc l'invitation sera lancée avec grand plaisir. Je précise donc que tous les liens seront à retrouver en description du podcast.
Ou si vous trouvez des femmes aussi, c'est bien. Hein.
Ah bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais footballeur et footballeuse. Mais ce sera avec grand plaisir. Donc tous les liens seront dans la description, le site internet pour retrouver les chaussures, etc. Le compte Instagram, puisque... le département marketing d'Émile et Mille fait du travail sur Instagram.
Pas beaucoup, mais...
Non, mais bon, c'est toujours bien de suivre un petit peu les nouveautés. Merci beaucoup, Isabelle Dume, pour votre disponibilité. Et puis, on espère voir les nouveaux produits arriver. On va suivre ça avec attention. Et puis, longue vie à Mille et Mille.
Merci beaucoup. Et puis, au plaisir. À très bientôt. Merci bien d'avoir pensé à nous.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.